Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette émission Par les temps qui courent, qui écoute tous les soirs les artistes. Ce soir, c'est avec plaisir que nous recevons Alberto Manguel.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu
Par les temps qui courent.
Ça y est, puis va-t-il.
Marie Richeux.
Et c'est que le monde dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Je crois que c'est vrai. Il existe peut-être dans toute imagination humaine une anticipation muette de la perte de ce qui a été accompli. On édifie, bien sûr, parce qu'on veut une famille, une maison, une profession. Si on le peut, on crée quelque chose à partir de sons, de couleurs et de mots. On compose une chanson, on peint un tableau, on écrit un livre. Mais sous-jacente à tout ce que l'on fait, demeure la certitude secrète que tout cela sera un jour balayé. La chanson ne sera plus chantée, le tableau se ternira, le livre partira en flammes, jusqu'au jour encore à venir où, comme disait Isaïe, la beauté nous sera donnée au lieu de la cendre. Alberto Manguel, ce sont vos mots. Ils sont tirés de votre dernier ouvrage paru aux éditions Actes Sud. Je remballe ma bibliothèque. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci beaucoup d'être là. Alors, on va parler de beaucoup d'auteurs, de beaucoup de livres, mais vous citez entre autres Marie Stuart qui fait le commencement, du commencement et de la fin, un mouvement.
C'est qu'elle brode sur son linge le soir avant son exécution. Donc, oui, c'est cette idée que, à ma fin et mon commencement, qui est une idée de l'éternité, de l'infini, mais aussi une preuve de que nous recommençons toujours, sachant que ça s'achèvera un jour.
Et qu'il y a quelque chose de contenu dans la fin qui a à voir avec le commencement. Je me permets de poursuivre avec vous et Marie Stuart pour tout simplement évoquer le début de cette année 2019. Quelque chose qui commence donc. Est-ce que vous avez un vœu ou plusieurs vœux pour cette année qui commence, Alberto Manguel?
Des bonnes lectures, mais surtout que nous ayons tous la chance de trouver un monde meilleur par ces temps qui courent, qui sont si désespérants, si angoissants, comme si nous n'avions jamais appris les leçons du passé. Il est étonnant de voir aujourd'hui que nous revenons sur des choses qu'on croyait révolues, qu'il faut apprendre de nouveau, que nous sommes tous des êtres humains avec des droits égaux, que nous avons tous le droit à une vie plus ou moins heureuse, plus ou moins juste. Mais tout cela, il faut le dire à nouveau, parce que nous sommes à une époque quand nous semblons oublier tout ça.
Vous avez l'impression que nous l'oublions davantage aujourd'hui que nous avons pu l'oublier hier, que davantage il faut le dire. Vous ne pensez pas que cette aspiration à la dignité, à l'égalité des hommes et des êtres entre eux, il faut de toute façon toujours le redire, Alberto Manguel?
Mais certainement. Seulement que peut-être, au fil des jours, nous avons fait tellement des relectures de ces choses-là, qu'il nous semble peut-être aujourd'hui plus angoissant de savoir qu'il faut les redire au début du temps humain, quand ces idées étaient nouvelles et qu'on essayait de trouver avec Platon, avec les révolutionnaires français, avec les libérateurs de l'Amérique latine, des formes d'apprendre ces vérités, Ça semblait plus facile qu'aujourd'hui parce que tout ce temps révolu où ces choses ont été dites, nous les avons oubliées, semble-t-il. Et il faut revenir sur ces bibliothèques et reprendre ces textes et créer des nouveaux. Mais le temps est court. Les scientifiques nous disent que il nous reste très, très peu de temps, s'il nous reste du temps du tout.
Ce livre est en partie lié à un mouvement que vous mêlez à l'oubli, à la perte, mais aussi au renouveau. Ce mouvement est celui de remballer votre bibliothèque. Et au seuil de devoir le faire, des textes vous reviennent, comme si vous parlaient depuis leur propre sommeil, dont celui-ci.
I am not resigned to the shutting away of loving hearts into the hard ground. So it is and so it will be, for so it has been, time out of mind. Into the darkness they go, the wise and the lovely, crowned. With lilies and with laurel they go, but I am not resigned. Lovers and thinkers into the earth we go, but one with the dull, the indiscriminate dust. A fragment of what you felt, of what you knew. A formula, a phrase remains, but the best is lost. The answer quick and keen, the honest look, the laughter, the love, they are gone. They are gone to feed the roses. Elegant and curled is the blossom. Fragrant is the blossom, I know, but I do not approve. More precious was the light in your eyes than all the roses in the world. Down, down, down into the darkness of the grave. Gently they go, the beautiful, the tender, the kind. Quietly they go, the intelligent, the witty, the brave. I know, but I do not approve, and I am not resigned.
Quelle chance nous avons, Alberto Manguel, de s'être fait lire comme ça, en anglais, ce poème d'Edna St. Vincent Millay, que vous traduisez comme ça dans une sorte de raccourci de début et de fin, avec ces quelques mots « Je ne me résigne pas à ce que l'on enfouisse des cœurs aimants dans le sol dur. Ils partent en douceur, les beaux, les tendres, les bienveillants. Ils partent en silence, les intelligents, les spirituels, les courageux, je sais, mais je n'approuve pas et je ne me résigne pas. » Quand est-ce que vous revient ce poème ?
Très souvent. la traduction, il faut le dire, c'est pas mes mots, ce sont les mots de Christine Leboeuf, ma traductrice. Je crois que dans ce poème, Edna St. Vincent Millay dit quelque chose que j'éprouve en profondeur, qui est le paradoxe de savoir que nous allons tout perdre et de ressentir que nous n'acceptons pas cette perte. En dépit de tout ce que nous savons, que ne nous résignons pas à cette perte. Et dans mon cas, c'était la perte de ma bibliothèque. Quand j'ai monté ma bibliothèque en France en 2000, je croyais que cette bibliothèque qui occupait maintenant un espace suffisamment grand pour tous mes livres, qui étaient rassemblés des bibliothèques laissées un peu partout dans le monde, serait ma dernière bibliothèque, que je mourrais là. Et j'étais très content de savoir que j'étais arrivé au dernier chapitre. Or, comme tout lecteur le sait, le dernier chapitre n'est jamais le dernier chapitre, parce que on commence un nouveau livre, et ce que nous appelons le paradis est seulement le paradis parce que à un moment donné on le perd. La définition de paradis est le lieu que l'on perd. Donc le poème de Edna St. Vincent Millay correspondait exactement à ce sentiment.
Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous devez faire ce geste-là de la remballer? Qu'est-ce qui fait concrètement que vous vous trouvez dans cette situation?
Concrètement, c'est le monstre de la bureaucratie française. J'écrirai un jour un essai qui s'appellera « La bureaucratie mène au crime ». Non seulement la bureaucratie française, dans ce cas-là, responsable de mon déménagement forcé, mais les trois dernières années, je l'ai passé comme directeur de la Bibliothèque nationale de l'Argentine, et là aussi, le monstre contre lequel nous devions lutter n'était rien que la bureaucratie. Cette construction d'obstacles délibérés à toute activité humaine.
Obstacle à quoi, par exemple ?
Obstacle à l'imagination, obstacle à l'effort commun, obstacle au bon travail. Mais vous devez l'éprouver ici à la maison de la radio. Certainement, non, ne dites pas que non.
Ça peut m'arriver.
Oui, ça arrive dans tous les domaines humains. Nous avons construit des obstacles qui ne sont pas nécessaires avec l'excuse de rendre plus logique le travail, plus fluide les activités. C'est des règles, des lois qui n'ont aucun sens, sauf pour les bureaucrates.
Alberto Manguel, on fait aussi entendre ce poème parce que vous décrivez un moment où véritablement il vous revient, mais quand je dis véritablement, c'est-à-dire presque physiquement, comme s'il était en mesure de s'échapper de l'ouvrage dans lequel il est contenu et de venir vous visiter comme un fantôme, mais comme un fantôme doté de présence, de pouvoir, de puissance. Est-ce que c'est ainsi qu'agissent les livres sur vous ?
Les livres sont les vraies présences du monde pour moi. Depuis mon enfance, ma connaissance du monde s'est faite à partir des textes lus. Et enfant, j'ai appris ce qu'était la mort, ce qu'était l'amour, ce qu'était l'amitié, ce qu'était la peur à travers les livres. Et donc plus tard, quand ces choses-là me sont arrivées, la mort pas encore, mais quand j'y arriverai, j'aurai les mots pour la nommer, toutes ces choses-là correspondaient à des textes. Évidemment, la naissance d'un fils ou la mort d'un ami est toujours en dehors de la page, mais il m'aide d'avoir les mots dans la littérature qui décrivent ces scènes-là pour saisir ce moment, ce moment ineffable, incompréhensible, et ça m'est arrivé toujours. Et donc, à chaque moment de ma vie, quand il se passe quelque chose, les livres sont là comme une présence perchée sur mon épaule, me disant « Je te donne cette façon de nommer ce que t'arrive pour t'aider à mieux comprendre. »
Et en même temps, vous écrivez que la perte de la bibliothèque, qui n'est peut-être pas la perte des livres, Alberto Manguel, vous permet de trouver le moment pour se souvenir ce que vous êtes vraiment. C'est qu'on entend bien, de toute façon, on a commencé par Mary Stuart, à savoir « À la fin, j'y mon commencement », et on entend bien que la perte va en fait avec une convocation de ce que nous sommes, comme s'il y avait une sorte d'espace qui se créait.
C'est vrai, mais ça n'est qu'une consolation. Je veux dire, la perte est une perte réelle. Ma bibliothèque n'existe plus. Cet endroit que j'aimais tant, où je me retrouvais, qui était l'incarnation de moi-même, mon identité, la façon de me présenter au monde et ce que le monde me donnait, était disparu. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai, dans ma mémoire, les textes aimés me reviennent la nuit, me revient quand je dois écrire un nouveau livre et que je n'ai pas mes références à la portée de la main. Vous savez, quand le deuxième temple de Jérusalem a été détruit, les Juifs continuaient à mener leur rite comme si l'espace physique continuait à exister, c'est-à-dire 10 pas à droite, 10 pas à gauche. Et moi, j'éprouve cela avec la géographie de ma bibliothèque. Si je pense à un livre, j'étends ma main et je peux le saisir, mais c'est un fantôme et donc il ne revient pas dans ma main. Et je sais que dans ma tête, il se constitue une nouvelle bibliothèque faite de façon aléatoire. C'est pas les livres que j'avais mis sur les rayonnages, mais c'est un choix que ma mémoire fait en bon bibliothécaire, m'offrant des textes que je ne savais pas ou je me rappelais pas que je connaissais. Et donc de ce mélange surgissent des choses qui sûrement n'auraient pas surgi des livres physiques. C'est une présence des fantômes. Un livre qui m'est essentiel maintenant et dont je garde quelques éditions, c'est La Divine Comédie de Dante. Et Dante, dans ce voyage dans les 3 royaumes outre-terrain, rencontre la présence des âmes condamnées ou dans le purgatoire ou dans le paradis, mais ce n'est pas vraiment les âmes, c'est la représentation que ces hommes font pour servir à la connaissance des Dantes. Quand au paradis, il voit des visages s'approcher de lui, Béatrice lui dit « Ne te trompe pas, ce n'est pas les êtres véritables, ce n'est pas les âmes véritables, c'est une sorte de courtoisie de la part des âmes qui se font voir pour toi, pour que tu puisses t'entretenir avec eux. » Moi, je sens la même chose avec ces livres disparus, ensevelis, qui attendent leur résurrection et qui maintenant se présentent à moi comme des fantômes de ce texte que je reconnais et que j'utilise.
C'est leur élégance, d'une certaine manière. C'est leur courtoisie.
C'est leur élégance, exactement.
Alberto Mengel. Vous faites référence plusieurs fois aussi à une culture juive, c'est ainsi que vous la mentionnez, qui fait perdurer le rythme de la vie au-delà de la disparition des objets physiques. Et ça recouvre finalement votre convocation de Dante, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, et ça recouvre aussi ce qu'on disait tout à l'heure avec Marie Stuart, il y a quelque chose dans ce livre qui a à voir avec une pensée de l'éternité.
Certes, moi je n'étais pas élevé comme juif, ma famille n'avait aucune religion, d'ailleurs je n'avais pas grand rapport avec mes parents. Et donc, adolescent, je me suis commencé à intéresser par les différentes religions et je commençais à lire des textes de la théologie chrétienne, juive, islamique. Et ce qui m'a étonné était de voir, avec cette comparaison classique de Athènes et Jérusalem, que pour les Grecs, leur culture était dans leurs monuments physiques, était dans leurs temples, dans leurs théâtres, dans leurs maisons. Donc c'était vraiment la présence physique des statues, des bâtiments. Tandis que pour les Juifs, c'était dans le temps, c'était pas dans l'espace. Ce peuple nomade ne pouvait pas tenir de monuments dans l'espace, même le temple de Jérusalem disparaît. Et donc, c'est le livre qui existe dans le temps qui est leur monument. Et c'est vrai que ça se présente comme un monument de l'éternité, comme un monument qui existe le long du temps, qui évolue, qui change, mais qui, d'une certaine façon, reste immuable. La littérature est un peu comme ça, parce que à chaque fois que nous prenons un livre, nous ne le prenons jamais pour la première fois. Il y a des lectures qui nous précèdent, qui, d'une certaine façon, colorent notre lecture première. Et le long de notre vie, si nous relisons, le texte change. Ce que Héraclite avait dit du temps que nous ne rentrons pas deux fois dans le même fleuve peut se dire de tout livre. Nous ne rentrons jamais deux fois dans le même livre. Il change, il est autre.
Dans la bibliothèque de Babel, je dirais qu'il y a deux idées. D'abord, il y a une idée qui n'est pas du tout la mienne, qui est un lieu commun, l'idée d'une possibilité de variation presque infinie avec un nombre limité d'éléments. Et puis, il y a eu aussi, derrière cette idée abstraite, il y a eu aussi, sans doute, sans que je m'en trouble beaucoup, une idée d'être perdu dans l'univers, de ne pas le comprendre, de trouver une solution précise et ne pas savoir quelle est la vraie solution. C'est-à-dire, dans ces contes-là, et je l'espère dans tous mes contes, il y a une partie intellectuelle et puis il y a l'autre partie, qui est plus importante, je pense, du sentiment de la solitude, de l'angoisse, de l'inutilité, du caractère mystérieux de l'univers, du temps, et ce qui est plus important, de nous-mêmes, de moi-même, je dirais, non? Et je crois que dans tous mes contes, on trouve ces deux éléments. C'est-à-dire, ce sont un peu des jeux, mais ces jeux ne sont pas arbitraires. En tout cas, ils ne sont pas arbitraires pour moi. Il y a une nécessité, si le mot n'est pas trop fort, qui m'a été poussé à les écrire.
On est en 1965, Borges s'entretient avec Georges Charbonnier pour France Culture, des entretiens donnés en français, et il parle ici de la bibliothèque de Babel, avec plein de choses. Il dit plein de choses. Peut-être l'une des choses qui m'intéresse le plus, c'est la manière dont il lit le jeu, pas arbitraire, précise-t-il, et la nécessité.
Oui, c'est la nécessité que l'être humain éprouve de donner un sens à l'univers. Nous savons que l'univers n'a pas un sens, du moins il n'a pas le sens que nous pouvons comprendre. Hawking, le grand astrophysicien, disait que la réalité a des règles, mais il ne les comprenait pas et il n'avait pas moyen de prouver ce qui était réel. Donc, nous, êtres humains, nous avons un certain sens du temps, un certain sens de l'espace, qui n'est pas du tout celui de l'univers, et nous voulons, à travers ces deux sens, donner un sens logique à tout ce qui nous entoure, et le symbole de ça est la bibliothèque. La bibliothèque est le lieu où l'on range nos connaissances de l'univers. Mais c'est un rangement qui paraît logique, mais qui est arbitraire. L'ordre alphabétique, l'ordre numérique est un jeu qui correspondent, comme dit Borges, à une nécessité fondamentale de nous dire nous sommes dans ce monde chaotique, incompréhensible, mais il y a un sens que nous pouvons, sinon découvrir, donner à ce monde.
D'ailleurs, c'est intéressant qu'il utilise en tout début de cet extrait d'archive des termes assez mathématiques. C'est une variation infinie à partir d'un nombre fini d'éléments. Ça dit d'abord son goût pour ça, mais ça aussi, oui. C'est une organisation du réel. Ça aussi, c'est une nécessité de comprendre le monde et de déposer sa connaissance du monde. Et c'est intéressant de voir que vous aussi, vous utilisez des mots qui ne sont pas sans rapport avec la mathématique, la question de l'ordre, la question du nombre. Peut-être est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, Alberto Manguel ? Parce que tout ça va aussi avec le désordre et le chaos et la digression qui est l'une des formes que prend votre livre.
Les mathématiques m'intéressent, me fascinent, mais je n'y comprends rien. Borges disait que ça faisait partie de la littérature fantastique, les nombres imaginaires, les parallèles à géométrie non euclidienne. C'est fascinant parce que c'est ce sont des formes, des données, de construire un vocabulaire pour cet univers qui n'est pas un univers des mots ni un univers des chiffres. Moi, j'essaye de trouver ces formes géométriques, cet ordre dans le texte que je lis, voir quelles sont les correspondances dans le texte lui-même ou dans des textes autres, le texte de Marie Stuart avec le poème de Edna St. Vincent Millay, Borges et Diderot, Borges et les grands mathématiciens. Mais je sais, comme dit Borges, que c'est un jeu nécessaire, oui, mais un jeu quand même, que la réalité est toujours autre. Dante, à la fin de son poème, on lui concède la vision finale, la grande vision de Dieu, mais il ne peut pas la mettre en mots. C'est une forme de concéder le tout, de avoir l'épiphanie, mais à ce moment-là, ne savoir ce que c'est, ou plutôt d'éprouver ce que c'est, mais ne pouvoir le dire. La réalité ultime échappe au langage.
Est-ce que c'est pour ça que, alors on n'est peut-être pas face à cette vision, à cette épiphanie du réel, Alberto Manguel, dans ce livre-là, mais en tout cas, il y a une forme que vous prenez qui est le détour, la digression qui vient s'entrecaler comme des feuillets avec le récit de ce remballage de bibliothèque. Pourquoi ça ? Pourquoi ce mouvement-là ?
Je suis incapable de penser en ligne droite. Mon personnage favori dans la littérature, c'est le petit chaperon rouge, parce que elle ne va pas droit à la maison de sa grand-mère, mais elle se perd en forêt, et là naît la grande aventure. Le loup existe à cause des détours du petit chaperon rouge. Et moi, ça m'a semblé toujours la façon juste de procéder. De toute façon, je ne peux pas procéder d'une autre façon. Et je m'intéresse par des choses aléatoires et je ne me souviens que rarement du but de mon texte. Où voulais-je aller? J'aime beaucoup les digressions. Pour cette raison-là, Alice au Pays des Merveilles ou Diderot, Jacques le Fataliste ou encore Dante sont des livres essentiels pour moi parce que c'est des livres de digression. À chaque fois que le personnage se met sur une certaine route, il y a un détour. Et on ne sait jamais ce qui se serait passé si le personnage serait allé en ligne droite.
Mais peut-être parce que ça recouvre une impossibilité. Alberto Manguel, on disait à la fin, Dante, quand il arrive au bout et qu'on lui concède la vision totale du réel, il est sans les mots. Alors, en tout cas, en prenant des digressions et en faisant des virages, on sait qu'on est toujours en prise avec le langage. On sait qu'on pourra raconter, qu'on pourra dire les aventures, qu'on pourra dire les virages.
Mais au moins, on aurait essayé. Stevenson disait que notre mission dans la vie n'est pas de réussir, sinon d'échouer dans le meilleur des esprits possibles.
Beckett, d'une certaine manière, le disait quasiment dans les mêmes mots.
Exactement. Exactement. Donc, échouer, essayer à nouveau, échouer mieux. Donc, oui, c'est ça. Si on prend les détours, au moins on arrive à couvrir un territoire plus vaste. Et si bien la carte que nous finissons par dresser ne sera pas une carte qui pourra être traduite dans un langage compréhensible, au moins cette carte existera et nous saurons que nous avons fait de notre mieux pour la parcourir.
Si on parle de choses concrètes, je me souviens avoir lu sous votre plume, Alberto Manguel, des récits de moments dans la pénombre où la lumière fait un cône sur la page et où d'un seul coup ça devient aussi presque une carte et un territoire, cette lumière qui s'appose dans l'obscurité. Est-ce que ces choses-là, concrètes, vous manqueront ?
Oui. Ça me manque toujours, parce que là, dans cette bibliothèque, j'avais construit le territoire qui correspondait à la carte que je voulais avoir. Maintenant, ce territoire, je le trouve parcellé en îlots. Une table ici, une table là, un rayon de lumière dans une certaine bibliothèque qui n'est pas la mienne, ou dans une librairie, pourquoi pas. Ces moments continuent à exister. J'imagine que quand Adam et Ève ont été chassés du paradis, Dante dit qu'il n'y était que pendant 6 heures, mais de belles 6 heures.
Ça a laissé des traces.
À partir de ce moment-là, il retrouvait certains moments qui le rappelaient des instants de bonheur absolu dans le paradis. Et d'ailleurs, encore Dante dit que quand les poètes parlent de l'âge d'or, Virgile, Ronsard, et ainsi de suite, ce n'est qu'un vague souvenir de ce paradis perdu. Pour moi, c'est la même chose.
Cette bibliothèque.
Oui, cette bibliothèque, elle reste comme la tour de Babel, détruite, mais qui a existé. Comme la bibliothèque d'Alexandrie, oui, qui est l'exemple de toute bibliothèque. France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux, avec moi, Alberto Manguel.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos. la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Je suis poète, mais il y a dans la poésie quelque chose qui ne parle pas normalement, qui ne veut pas parler normalement, qui ne veut pas, comment dire, quelque chose d'antiprophétique, quelque chose qui a peur de d'où peut mener la langue, qui a peur de l'ordre, qui ne supporte pas l'ordre. L'ordre pas au sens de ordonner, l'ordre au sens de intimer un mouvement, faire obéir, abuser d'un pouvoir. Il y a quelque chose là, vis-à-vis de quoi j'ai été réticent. Et les livres sont, de toute façon, c'est la beauté des livres, la littérature est profondément réticente à l'ordre et au pouvoir. Elle se terre un peu tellement elle est méprisée, et, comment dire, mais c'est une bénédiction. Dans le même temps, je pense que la haine de l'État à l'égard des arts, qui est quand même une grande nouveauté, grande nouveauté. Grande nouveauté. Quand on songe, Dieu sait que j'ai détesté le gaullisme et la férocité de la société qui était derrière. Mais le général de Gaulle ou François Mitterrand étaient des personnes pour qui, comment dire, ils avaient des complexes par rapport aux artistes, ils avaient des complexes par rapport aux écrivains. Ils étaient extraordinairement polis avec nous, extrêmement. Tandis que de nos jours, ils savaient non seulement parler, mais savaient improviser remarquablement. Bien mieux d'ailleurs que ne sauraient le faire des écrivains et moi-même. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est le tournant sans doute lié à une espèce de populisme ou comme si le fascisme des premières années du XXe siècle n'avait pas achevé son destin et que il revenait dans les mêmes pays, à vrai dire, parce que l'Italie, la France, avec des potentats qui ne... Alors là, pour la première fois, sont parfaitement décomplexés par rapport aux arts, qui s'en moquent royalement, qui ont même presque du plaisir. Berlusconi ou Sarkozy ont presque du plaisir à vieillir l'étude, à se moquer de la recherche, à ne pas prendre en considération une seconde la particularité des arts savants, je veux dire. Là, je ne parle même pas de la musique savante ou de choses comme cela, et c'est assez consternant. Mais il faut trouver profit à tout, et il est possible que cette relégation dans laquelle on se trouve permette de bâtir de nouveau nos petites abbayes.
Eh bien, Pascal Quignard, au micro de Laure Adler dans l'émission Hors Champ en 2012, Alberto Manguel.
Quelle intelligence!
Pour parler de votre livre, je remballe ma bibliothèque parce qu'il y a évidemment dans les propos de Pascal Quignard, il y a de cela bientôt 7 ans, des choses qui entrent en résonance avec ce que vous écrivez ou bien l'écho de ce que vous écrivez, Alberto Manguel. Parce que vous posez aussi la question d'un remballage de la bibliothèque, pas seulement à votre échelle intime, mais aussi à une échelle sociale et sociétale. Et vous vous posez la question, et donc vous la posez à nous, quel peut être un rôle civique, humaniste de la bibliothèque dans le monde contemporain que nous habitons?
S'il y a de l'espoir, et je mets un grand « si », cet espoir doit venir, comme nous le savons depuis toujours, de l'éducation. de l'imagination, du pouvoir de concevoir un monde meilleur. Ce que dit Pascal Quignard sur l'emprise du fascisme qui n'a pas fini de brûler est si vrai dès nos jours que je suis bien moins optimiste que lui.
C'est-à-dire que quand il termine en disant « il faut trouver profit à tout et peut-être qu'il y a dans cette relégation la possibilité de bâtir de nouvelles abbayes », vous vous dites « peut-être pas ».
Peut-être pas, peut-être pas. J'aurais dit la même chose que lui il y a 3 ans, 4 ans.
Bon, il le dit il y a 7 ans, hein.
Oui, bon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste comme possibilité de une démocratie dans le sens moderne, pas dans le sens platonique? Presque nulle part. Le Canada, sauf l'Ontario qui est sous la gouvernance de cet ami de Trump, la Norvège peut-être, mais sinon, à la France et à l'Italie mentionnées par Quignard, nous devons ajouter maintenant l'Hongrie, la Pologne, et ainsi de suite.
Que vous mettez peut-être pas au même niveau. Si ?
Vous savez, des niveaux. Est-ce que dire que Hitler était pire que Mussolini n'est pas vraiment
dire grand chose,
hein? Il ne s'agit pas de statistiques immobilières. Donc, il y a une façon de penser empoisonnée et qui empoisonne. Et nous sommes dans ces climat empoisonné aujourd'hui qui ne croit pas à la vérité scientifique ni des sciences ni des arts, qui ignore les avertissements mais très concrets que les scientifiques nous ont fait de changer. C'est pas la phrase de Rilke, il faut changer votre vie, il faut changer notre vie si nous voulons continuer à avoir une vie. Il y a pas deux possibilités, changer ou nous suicider. Et j'espère que non, mais j'ai le sentiment que nous allons vers un suicide collectif. Mais, s'il y a de l'espoir. Je crois que cet espoir se trouve, comme je disais, dans l'éducation, dans les livres, dans les bibliothèques, et que nous pouvons, à partir de ces institutions revues, rénovées, enseigner de nouveau ou apprendre de nouveau ce qui est notre rôle civique. Qu'est-ce que c'est être un citoyen à notre siècle ? Quelles sont nos responsabilités? Comment pouvons-nous vivre ensemble dans un monde un peu plus heureux, un peu plus juste?
Mais en même temps, ça va contre ce que disait Pascal Quignard. En tout cas, ça se heurte à ce que décrit Pascal Quignard, si tant est que ce qu'il décrit est vrai, à savoir une haine de l'État pour les arts et les arts savants et une moquerie de la recherche. Ce n'est pas rien de dire
cela.
Non.
C'est intéressant quand même. Je ne vais pas à l'encontre de ça. Pascal a raison quand il dit qu'il parle de cette haine de l'État. La bibliothèque, les écoles ne doivent pas dépendre dans ce sens-là de l'État. La différence entre ordre et ordre est importante de la retenir. L'éducation, les bibliothèques mettent de l'ordre, mais ne donnent pas d'ordre. Donc, c'est l'État qui veut donner ses ordres et la société existe dans la tension entre les ordres de l'État et l'ordre que les citoyens veulent mettre dans ce monde. Donc je crois que à partir d'une conception autre de l'éducation, une éducation qui n'essaierait pas un genre d'entraînement pour des ouvriers, pour des travailleurs dans les usines et des consommateurs, sinon des institutions d'éducation qui laissent courir librement l'imagination. C'est là qu'on pourra voir si les êtres humains inventent un système meilleur que celui que nous avions jusqu'à maintenant. C'est étonnant, c'est la grande question que je me pose. Depuis les origines de la société humaine, nous n'avons pas été capables d'imaginer un système de société où la plupart des citoyens sont à peu près heureux et travaillent sous un système plus ou moins juste. Comment ça n'a été pas possible? Nous avons inventé, imaginé tellement de choses depuis la Divine Comédie jusqu'à aux géométries non euclidiennes. Comment nous n'avons pas pu imaginer un système convivial de société. Je pense que si nous donnons au système d'éducation une liberté majeure et enseignons comment accéder au trésor d'expérience d'une bibliothèque, peut-être là, nous pourrons aller dans le bon sens.
Et si l'on continue à commenter les propos de Pascal Quignard, il dit que nous ne sommes pas exactement dans un monde qui va vers l'ouverture d'une porte qui mènerait aux multiples expériences que propose une bibliothèque, Alberto Mangel, puisqu'il décrit un monde où les artistes ne sont pas écoutés, n'ont pas de place, sont moqués, la recherche n'a pas les moyens de faire ce qu'elle doit faire, ni même la littérature d'exercer l'impératif du désordre qu'il appelle de ses voeux. Alors lui, il dit, peut-être que dans cette marginalisation, il y a une aubaine. Oui. Vous dites, c'est pas sûr.
C'est pas sûr. Évidemment, la marginalisation crée des révolutionnaires. Et il faut une révolution contre la consommation, parce que tout ce système fasciste que nous vivons maintenant est un système qui veut créer des consommateurs. Or, le bon consommateur n'est pas lecteur. Le bon consommateur ne doit pas réfléchir. Et donc, pour s'opposer à ça, comment faire sans le bouleversement de tout ce qu'il y a maintenant, créant de nouvelles structures? Mais bon, ça c'est une utopie, mais ce n'est pas dit que les utopies ne soient pas possibles. Chesterton disait que la chose la plus extraordinaire des miracles, c'est qu'ils arrivent.
Je connais beaucoup de gens qui sont comme moi, ça doit être en partie névrotique. Je pense qu'un psychiatre pourrait vous expliquer ça alors beaucoup mieux que moi. Je suis persuadé de toute façon que ça, ce sont des problèmes. En fait, c'est pas tellement la possession, parce que tout pourrait brûler. Je regretterais seulement un ou deux livres. Disons qu'il y a des réussites. Peut-être que j'aimerais écrire un livre, c'est peut-être ça tout simplement, et réussir. Le petit belle-mère que j'ai, qui est Yad Ciselé en branche, pour moi est une réussite parfaite. Ça, c'est un des livres que je regretterais si je le perdais. On a une typographie très belle qui est l'écriture de Georges Huniet, qui avait une très très belle écriture, des petits dessins en marge en couleur de belle-mère qui sont aussi parfaits. Et en plus, je l'ai donc fait relier par un ami, Jean de Gonnet. Il a fait une reliure exceptionnelle. Ça fait un ensemble. C'est un très bel objet, en même temps que un beau texte et des illustrations. Si on aime un texte, on l'a lu en livre de poche, et on a envie de se mettre un petit peu à la place de la... C'est peut-être ça, je ne sais pas, la place de la personne qui le lisait, mettons, au XVIe siècle. Vous avez un Montaigne en reliure d'époque. Je crois que le soir, si vous êtes seul, vous ouvrez le livre, vous replongez tout à fait en ayant du velin entre les mains, en ayant une impression qui est toujours très belle, d'ailleurs, dans ces cas-là. un très beau papier. Je crois qu'on est plus à même de comprendre vraiment mieux le texte, de l'apprécier.
Le jour où pour la dernière fois je quittais ma bibliothèque, je me sentais désespérément malheureux et des vagues de phrases remémorées à propos de vengeance, de rage et de désespoir vinrent marteler dans ma tête, comme si la bibliothèque m'ouvrait ses livres en ultime geste d'amitié. Une citation de La traversée du miroir vint à ma rescousse. Pour consoler Alice, malheureuse dans le royaume étranger de l'échiquier, la reine blanche lui donne ses conseils. Pensez à la fille formidable que vous êtes. Pensez au long chemin que vous avez parcouru aujourd'hui. Pensez à l'heure qu'il est. Pensez à n'importe quoi, seulement ne pleurez pas. Je pensais à beaucoup de choses. Le lieu paisible où se trouvait la bibliothèque, le temps qu'il avait fallu pour la construire, les livres que j'avais acquis pendant que j'habitais là. Je me demandais quelles circonstances m'avaient amené à constituer la collection sur le point d'être entassée dans des caisses numérotées. Quel caprice m'avait fait rassembler ces volumes en un tout comparable aux pays colorés de mon globe terrestre. Qu'était-ce qui avait suscité ces associations semblant devoir leur sens à des émotions affadies et à une logique dont les règles m'échappent aujourd'hui? Est-ce que je suis à présent, reflète-t-il cette lointaine obsession? Parce que si toute bibliothèque est autobiographique, son remballage semble avoir quelque chose d'une auto-éloge funèbre. Peut-être ces questions sont-elles le sujet véritable de cette élégie. Alberto Manguel, un extrait de ce texte « Je remballe ma bibliothèque » qui a deux sous-titres, une élégie et quelques digressions, traduit, je le rappelle, par Christine Leboeuf. On va passer de la question politique à la question ultra-intime désormais, puisque vous osez le sous-titrer « Une élégie » et que dans l'intérieur même du texte, vous posez la question de savoir quel est le statut réel de ce « Je remballe ma bibliothèque ». Est-ce que si la bibliothèque était une autobiographie, le fait de la remballer est en fait une sorte de réflexion sur la mort et sur la disparition? Avez-vous tranché la question?
C'est une réflexion sur la mort parce que j'ai 71 ans maintenant, presque. Donc je suis sur le dernier chapitre, les dernières pages. Mais comme tout lecteur sait, la dernière page d'un livre n'est que le préambule à la première page du prochain. Mais j'ai pas beaucoup de temps pour ce prochain volume. Je ne sais pas ce qui va t'arriver avec cette bibliothèque en ce pays, si elle va ressusciter. Pour l'instant, c'est une période de consolation qui vient après la rage première. Et j'essaye de me retrouver autrement, me dire que le lecteur qui avait monté cette bibliothèque reste quelque part en moi et que partir des textes que ma mémoire a gardés, je construirai peut-être une bibliothèque imaginaire, mentale, qui sera pas peut-être plus mal que la première. Donc, dans ce sens-là, je garde l'espoir de ne pas être entièrement décédé avec ma bibliothèque, ma feu chérie bibliothèque.
Et est-ce que ça a une action concrète sur la manière dont vous écrivez, Alberto Manguel? Parce qu'évidemment, on parle de vous en lecteur et c'est normal, on parle de vous comme celui qui avait imaginé cette bibliothèque, mais on parle aussi de vous en tant qu'auteur aujourd'hui. Et est-ce que le fait de l'avoir remballé vous fait écrire différemment?
Ça me fait écrire et lire autrement. C'est-à-dire, je relis beaucoup plus. Je me souviens de certains livres qui étaient dans ma bibliothèque que je vais trouver d'autres éditions de ces livres, donc je relis mes classiques maintenant et je découvre des choses inattendues, inouïes, splendides, dont je ne me souvenais pas. Mais pour l'écriture, c'est une écriture qui s'est fait beaucoup plus à partir seulement de ce que, dont je me souviens. Avant, je pouvais aller au rayonnage, choisir les livres dont j'avais besoin. Maintenant, c'est ma mémoire qui me prête certains textes, et à partir de ces textes, j'écris, et c'est tout à fait une autre chose.
Agréable ?
Différente. J'aimais beaucoup la présence physique de mes livres ouverts sur ma table. Maintenant, c'est différent parce que je suis seul, je ferme les yeux, je me souviens d'un certain texte. Après, bon, il faut que j'aille, je vais voir si ma mémoire est juste.
Alors,
si
vous allez voir où maintenant ?
Dans une bibliothèque. J'habite maintenant à New York, donc je peux aller dans les bibliothèques publiques, trouver mes références. Mais je ne m'inquiète pas trop, parce que après, mes éditeurs contrôlent ça un peu, et je me félicite d'avoir une assez bonne mémoire, donc mes souvenirs sont pour la plupart corrects. Mais c'est une façon différente de travailler. Je suis beaucoup plus seul. Mais c'est aussi une question qui vient avec l'âge. Adolescent, je n'avais pas des amis qui étaient décédés. Maintenant, la plupart de mes amis sont décédés, surtout mes maîtres à penser. Donc, je suis entouré des fantômes. Dans une certaine mesure, c'est agréable et j'espère continuer comme ça jusqu'à que moi-même je deviendrai fantôme.
C'est marrant parce que vous dites dans une certaine mesure c'est agréable et quand vous prononcez cette phrase-là, je me dis presque à certaines heures de la journée parce qu'il y a des choses qui m'ont marqué dans ce texte-là qui ont à voir avec votre attention portée à la lumière. J'ai une vision de vous sortant dans le jardin très tôt et du premier livre ouvert. Et de l'oiseau, du premier oiseau qui chante. Et puis, presque à l'autre bout de l'horloge, j'ai une vision de vous dans l'obscurité, une fois que la nuit est très installée, à l'intérieur de la bibliothèque, dans le noir. Et je me dis, peut-être les fantômes ont des façons différentes de venir vous visiter selon l'heure qu'il est et la place du soleil dans le ciel.
C'est juste, ils arrivent surtout la nuit. Le matin, avec les lumières naissantes, ils sont beaucoup plus timides et réticents. Mais la nuit, c'est leur domaine et entre mes dernières heures éveillées et mon sommeil, ils prennent entièrement la place, ils me parlent, ils me racontent des choses, ils me donnent de nouvelles idées, ils m'encouragent, ils me consolent.
Merci beaucoup Alberto Manguel. Je remballe ma bibliothèque, une élégie et quelques digressions traduites de l'anglais par Christine Leboeuf, c'est paru aux éditions Actes Sud. Feutré, que je me permets de dire qu'il y avait ce soir au son Bruno Mourlan et à la réalisation Lise-Marie Barré. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr ou en vous abonnant au podcast de Par les temps qui courent. Un grand merci à Jeanne Aléos, Zosha Orcantourès, Lou Quevauvillier, Marianne Chassor et Anna Baron qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours. Je vous souhaite une excellente soirée sur France Culture dans un instant le journal et je vous dis à demain.